Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, la condamnation à 20 ans de prison de Mélina Bouguédir, ressortissante française arrêtée à Mossoul et reconnue coupable d'appartenance à l'organisation État islamique. Compte rendu d'audience avec à Bagdad Delphine Gotcho. Frappe aérienne israélienne et tir de roquettes palestiniennes. Et si ce nouveau cycle de violence débouchait sur une guerre massive? Question posée par notre correspondante au Proche-Orient, Marie Semelin. Le massacre de Tiananmen, 29 ans après la répression, les mères des victimes demandent la réhabilitation de leurs proches. Reportage de Dominique André. 15 organisations de jeunes, étudiants et lycéens refusent l'idée d'un service national universel obligatoire. Rêve, je cite, d'une nation capable d'orienter sans imposer et de conseiller sans contraindre. Fin de citation. Enfin, la face cachée du globe fera entre autres escale à Mayotte. La face cachée signée ce dimanche Nabila Hamel. Mélina Bouguédir a-t-elle suivi son mari à Mossoul, ex-fief de l'organisation État islamique, en connaissance de cause? Oui, ont répondu les magistrats Baghdadi. La justice irakienne, qui dans un premier temps l'a jugée pour entrée illégale, vient de la condamner à 20 ans de prison pour appartenance à un groupe terroriste. Delphine Gotcho a suivi cette audience à Bagdad.
La jeune femme de 27 ans est entrée dans la salle squelettique, habillée tout en noir, avec un voile violet, avec des fleurs sur la tête, et dans ses bras, sa petite fille, sa dernière fille qui a 16 mois, qui se retrouve avec sa mère. Pendant 50 minutes, Mélina Bouguédir va répondre aux questions du juge irakien. Il lui demande si elle a participé activement aux opérations Daesh, pourquoi elle s'est rendue en Syrie d'abord quelques jours, puis en Irak. Il lui montre ensuite un trombinoscope avec des photos de djihadistes français et belges. Elle doit reconnaître ces hommes et ces femmes. Mélina dit qu'elle s'excuse, qu'elle aimerait rentrer, retrouver ses trois enfants qui ont été rapatriés en France en décembre. Et ensuite, la cour a délibéré pendant 5 minutes pour condamner cette femme à 20 ans de prison. À l'issue de ce verdict, Mélina Bouguédir apparaît sonnée. Nous avons pu lui parler, elle était en larmes, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle nous a dit « Je me demande ce que j'ai fait ». Elle est en pleurs et elle dit « Je ne comprends rien à ce qui arrive. Quelles preuves ont-ils pour me condamner à 20 ans de prison ?»
Et William Bourdon, l'un des 4 avocats de Mélina Bouguédir, française donc condamnée ce matin, annonce, William Bourdon, faire appel, son intention de faire appel de cette décision de la justice irakienne. En Jordanie, les hausses de prix et d'impôts recommandées et validées par le FMI ne passent pas, nuit agitée à Amman ainsi que dans d'autres villes du royaume. Le roi Abdallah II a appelé hier soir et le gouvernement et le Parlement à mener un dialogue global et raisonnable avec les syndicats. Le président du Sénat propose ce dimanche une réunion de consultation. L'aviation israélienne cible et frappe des objectifs du Hamas à Gaza et prétend avoir détruit, lors de ses opérations, 2 sites de fabrication et de stockage de munitions. Frappe aérienne consécutive, selon l'État hébreu, à des tirs de roquettes palestiniennes, ainsi qu'à des tentatives d'attaque à la frontière contre des soldats. Cette réplique vient alourdir l'atmosphère irrespirable depuis 2 mois. Marie Semelin, la question qui domine les esprits après les tirs et frappes d'hier, c'est « y aura-t-il une guerre de plus ?»
Plus de la moitié des Israéliens pensent que leur gouvernement ne fait pas assez pour éviter un nouveau conflit armé. C'est le résultat d'un sondage publié samedi. 40% d'entre eux voudraient voir le blocus imposé à l'enclave allégé. Certains alarmés voient cette solution comme celle qui éviterait une guerre 4 ans après celle de 2014. Nous sommes à une croisée des chemins, dit un responsable militaire, et des décisions doivent être prises pour garantir le calme à cette frontière. Pour l'instant, le gouvernement israélien ne donne officiellement aucun signe dans cette direction et applique sa ligne habituelle. Les tirs vers l'État hébreu ou les tentatives d'incursion sur son sol sont systématiquement suivis d'une réponse militaire. Pourtant, des deux côtés, on semble tenir la bride. Si samedi soir, l'armée a visé une douzaine de sites identifiés comme appartenant au Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, ces frappes n'ont pas fait de victimes et de sources palestiniennes, les bâtiments ont été évacués avant les bombardements. La semaine à venir sera décisive. Une autre grande manifestation est prévue par les Gazaouis à la frontière avec l'État hébreu. La situation humanitaire est désespérée et ne joue pas pour une désescalade. Gaza compte désormais 13 000 blessés, dont 3 600 à balles réelles. Gaza est un navire qui coule, affirme Robert Mardini, le responsable de la Croix-Rouge au Moyen-Orient.
Près de la moitié des enfants afghans sont privés d'école. C'est l'un des relevés qui figure dans un rapport de l'UNICEF. Les filles sont les plus concernées et elles représentent 60% des 3,7 millions d'enfants privés de scolarité. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, il faut remonter à 2002 et à la fin du régime des talibans pour faire pareil constat. C'était il y a 29 ans, dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, plus de 1000 étudiants et militants du mouvement chinois pro-démocratie étaient fauchés par les balles des forces de l'ordre place Tiananmen à Pékin. 29 ans après ce massacre, les familles des victimes exhortent le président Xi Jinping à regarder la vérité en face. Alors que nous sommes au soir de notre vie, nous espérons assister un jour, avant notre mort, à la réhabilitation de nos proches, écrivent les mères des victimes de la place Tiananmen. Le sujet est banni des livres d'histoire. Quant à l'évoquer en pleine rue, c'est un reportage à Pékin de Dominique André.
La vérité sur la répression place Tiananmen en 1989 sera-t-elle connue sous le deuxième mandat de Xi Jinping? Les mères des victimes, qui ont 80 ans pour certaines, l'attendent. Mais le sujet reste toujours tabou. Mademoiselle Li, ancienne étudiante de 24 ans, aujourd'hui commerciale, en a entendu parler à l'université.
Je ne me rappelle pas grand-chose, mais tout ce que le pays veut qu'on sache, je suis au courant, j'en ai entendu parler. Il s'est passé des choses horribles, on en parle entre amis. Les aînés, dans ce qu'ils disent, c'est hors de mon imagination. Par exemple, il y a eu des affrontements, des blessés, des morts. Je n'ai vu aucun document là-dessus.
Est-ce qu'à l'école, on vous en a parlé ?
Non, c'est interdit, mais ça, vous devez le savoir. C'est interdit, c'est comme ça en Chine. Beaucoup de choses sont interdites.
Cette jeune femme, née en 1989, ne sait pas de quoi on parle.
Je ne sais pas. Je suis née en 89, donc je ne connais pas. Ma famille ne m'en a pas parlé.
Le bilan du massacre place Tiananmen est évalué à plus d'un millier de morts.
Dominique André, à Pékin, à moins de 2 mois des élections présidentielles au Mali, l'opposition dit faire l'objet d'intimidation et réclame la démission du Premier ministre Soumelou Boubeï Maïga. Le siège de l'Alliance démocratique à Bamako était sérieusement détérioré à coups de grenade. Les services du Premier ministre ont tiré à balles réelles sur des manifestants regroupés devant le siège de ce parti. 16 blessés, 2 dans le coma, dont le politologue Étienne Fabien. Dans l'actualité française, cette tribune que publie aujourd'hui le journal du dimanche, co-signée par 15 organisations de jeunes, étudiants et lycéens, parmi eux l'UNEF, la FAGE. Nous ne voulons pas d'un service national obligatoire. Cette tribune qui précède de quelques semaines des annonces plus précises sur la teneur de ce service national. Bonjour Eva Gennac.
Bonjour Mathieu.
Eva, ces organisations se dressent surtout sur le caractère, enfin contre plutôt le caractère obligatoire de cet engagement sous les drapeaux.
Oui, s'engager, disent-elles, c'est surtout choisir de le faire. La France ne doit pas forcer les jeunes, elle doit leur donner l'envie de l'engagement, les clés pour le concrétiser. Cela passe avant tout par l'éducation pour Lila Lebas, présidente de l'UNEF, co-signataire de la tribune.
C'est le rôle de l'école d'apporter les valeurs, de pouvoir faire de la mixité sociale, réfléchir par exemple à une augmentation de la scolarité obligatoire pour éviter et limiter le décrochage de jeunes les moins favorisés. Et c'est ensuite réfléchir évidemment à comment on permet tout simplement aux jeunes d'étudier ensemble, d'apprendre ensemble, d'avoir accès via l'éducation nationale à la culture. Et encore une fois, c'est en donnant les moyens à l'éducation nationale qu'on réussira à ces missions-là de mixité et non pas en rajoutant un service sur lequel on a du mal à comprendre les objectifs. Ce n'est pas en leur imposant un engagement que les jeunes vont s'en saisir.
On ne sait pas encore concrètement à quoi ressemblera ce service national obligatoire, mais il y a un mois, le groupe de travail missionné par le président de la République a remis un premier rapport qui en esquisse les contours. Il durerait un mois et serait consacré aux activités sportives, à l'enseignement des valeurs de la République, des gestes de premier secours. Au-delà de ce premier mois, l'engagement se ferait là, sur la base du volontariat. Cela coûterait entre 2 et 3 milliards d'euros par an, selon les premières études, une somme que les organisations étudiantes proposent plutôt d'investir dans le développement des services civiques et aussi dans la création de diverses formations sur l'égalité femmes-hommes, l'écologie ou encore la prévention des risques.
Merci à vous Eva Gennac. Il est 12h et presque 40 minutes, c'est l'heure de la face cachée du Globe. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour Mathieu. Des talibans négocieraient secrètement un cessez-le-feu avec des responsables afghans, révélation faite par le commandant des forces américaines dans la région, John Nicholson. Officiellement, les insurgés afghans n'ont toujours pas répondu à la main tendue en février dernier par Kaboul et ont multiplié leurs attaques dans le pays. Une contradiction que le général américain Nicholson balaie de la main. Violence et progrès peuvent coexister, dit-il. Il cite l'accord de paix avec les FARC en Colombie, obtenu après un épisode de violence. Le Zimbabwe vient de fixer au 30 juillet les premières élections présidentielles et législatives de l'après Mugabe. Sauf énorme surprise, son successeur Emmerson Mnangagwa devrait l'emporter seulement s'il promet des élections libres et honnêtes. L'opposition veut plus de garanties de crédibilité. Elle manifestera mardi à Harare pour exiger l'indépendance de la commission électorale et un égal accès de tous aux médias publics. 10 ans de prison pour l'opposant émirati Ahmed Mansour, l'une des rares voix critiques dans le pays. Un tribunal d'Abu Dhabi l'a accusé jeudi d'avoir critiqué le pouvoir et terni l'image des Émirats. Ahmed Mansour, 48 ans, devra également s'acquitter d'une amende de 235 000 euros et sera placé sous surveillance pendant 3 ans après sa libération. Plusieurs ONG, dont Amnesty, ont dénoncé ce verdict. Des milliers d'unités de logements seront soumises à validation dans les prochains mois, avait annoncé en mai le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman. Mercredi dernier, Israël a approuvé la construction de près de 2000 logements dans les colonies de Cisjordanie. Les détails avec Eric Biegala.
La majorité de ces nouveaux bâtiments, répartis dans une trentaine des quelques 126 colonies que compte la Cisjordanie, seront soumis à d'autres autorisations ultérieures avant d'être effectivement construits. Mais 700 d'entre eux ont d'ores et déjà reçu leur autorisation définitive et devrait sortir de terre incessamment. Cette colonisation, considérée comme illégale au regard du droit international par la plupart des pays de la communauté internationale, entretient une annexion de facto de la Cisjordanie, dénonce par exemple le Quai d'Orsay à Paris. Plus précisément, elle mine la possibilité d'un futur État palestinien jouissant d'une certaine continuité territoriale avec Jérusalem-Est comme capitale. D'ailleurs, parmi les nouvelles habitations prévues, une centaine devrait être construite dans les deux colonies bordant les limites orientales de Jérusalem. Qui plus est, la justice israélienne a également autorisé la semaine dernière la destruction d'un village bédouin se trouvant entre ces deux colonies et le déplacement de sa population arabe. Entre l'agrandissement des deux colonies et l'expulsion du village arabe, c'est une partie supplémentaire des accès vers Jérusalem-Est qui est potentiellement déniée au futur État palestinien. Selon l'ONG israélienne La Paix Maintenant, opposée à la colonisation, les constructions dans les colonies ont fait un véritable bond depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis. Quelques 14 000 nouveaux logements ont ainsi été approuvés en un peu plus d'un an.
Des micros séisme secoue l'île de Mayotte. Il y en a eu plus de 700 en 3 semaines. De quoi perturber, inquiéter et susciter beaucoup de questions. Sur place, la correspondance de Fanny Bouteillé.
De jour comme de nuit, à Mayotte, la terre tremble sans cesse depuis 3 semaines. Les Mahorais n'ont jamais vécu ça.
Il y en a de plus en plus. Enfin, au début, ça faisait peur, mais maintenant, vu que je commence à m'y habituer, ben, c'est devenu un quotidien.
700 microséismes enregistrés depuis le début des événements, de quoi inquiéter la population qui ne ressent que les plus forts. Il y a 2 semaines, une secousse de magnitude 5,8 s'est fait sentir, la plus forte jamais enregistrée à Mayotte.
La grosse secousse nous a vraiment paniqué en fait. Et que ce soit les voisins, les amis et surtout les enfants qui en sont jusqu'à présent.
Ça tremble et ça casse les maisons et ça fait vraiment peur à les gens.
L'épicentre est situé à 50 km au large de l'île. Les secousses n'ont pas occasionné de gros dégâts, mais quelques fissures commencent à apparaître dans les bâtiments. La préfecture a fermé plusieurs écoles à titre préventif. À l'hôpital de Mamoudzou, des affichettes ont fait leur apparition pour prévenir une éventuelle catastrophe. Sabine Toussaint est cadre sage-femme.
Le personnel de la maternité a très peur. Il y a une personne qui m'a demandé ce matin si c'était vraiment naturel ou si c'était surnaturel, parce que bon, il y a toujours la crainte de Dieu et la crainte du châtiment. Ils parlent de ça aussi, ça leur fait peur.
Tout le monde ici a envie de comprendre ce qu'il se passe, mais peu de réponses sont apportées. Une mission d'expertise devrait être envoyée depuis la métropole dans les jours qui viennent. En attendant, la population à 95% musulmane en plein Ramadan prie pour que rien de plus grave n'arrive à son île.
Un village du centre du Burundi n'aura pas les 10 ânes promis par une ONG locale pour aider femmes et enfants à transporter les produits agricoles, l'eau ou le bois. Un projet du même type, financé par la Belgique, n'a rencontré aucun problème. Mais cette dernière opération, financée par l'ambassade de France, a été violemment critiquée sur place par des proches du pouvoir. Du coup, les animaux ont été récupérés et mis en quarantaine. Des diplomates occidentaux font le lien avec la réaction de Paris, qui a dénoncé le référendum controversé du 17 mai destiné à maintenir le président Nkurunziza au pouvoir jusqu'à 2034. À dimanche prochain.
À dimanche prochain. Merci à vous, Nabila Amel. Météo France a placé ce dimanche 48 départements de l'ouest, du centre et de l'est de la France en vigilance orange, prévenant du risque d'orages violents, de fortes pluies et donc d'inondations. Cette édition a été préparée avec Martin Desclozeaux à la technique, Florent Bujon.